François Pinault, le pauvre homme qui voulait faire un si beau cadeau à la France en lui prêtant ses œuvres d'art, cette France ingrate et tatillonne qui lui met tant de bateaux administratifs dans les roues. C'est un gros mensonge par omission de taire l'origine de la fortune de ce généreux homme fait en une génération, comme dit un journaliste. C'est grâce aux avantages fiscaux colossaux consentis par ses amis Mitterrand et Chirac qu'il a accumulé cette fortune et aux commandes d'État. Et il ose le critiquer, cet État. C'est lui l'ingrat. Et en plus, il va nous coûter une fortune en amende dans l'affaire Executive Life. Nationalisons ces œuvres d'art. Nous les avons payées avec nos impôts.
Ouais, mais Pinault, monsieur Pinault, il a des tracasseries administratives parce qu'il ne peut pas ouvrir son joli musée d'art contemporain. On le tracasse administrativement. Que c'est pas bien l'administration française.
Mais bon, en revanche, il ne paye pas beaucoup d'impôts au regard de tous les millions qu'il gagne. Et puis, pour connaître quelques personnes travaillant au service de Monsieur Pinault dans l'ensemble de ses enseignes et de ses magasins, on peut dire que eux ont des tracasseries de fin de mois pour boucler, parce que quand au bout de 15 ans d'ancienneté dans des enseignes célèbres dont il est le patron, on gagne à peine le SMIC, eh ben, ça tracasse, Monsieur Pinault. Et ce n'est pas administratif, c'est financier, là, par contre. Ah, bon entendeur. Salut, Jean-François Chambéry.
Je viens te donner des nouvelles de France et te rassurer. Quand tu seras en captivité au goulag depuis 4 mois, c'est-à-dire à la rentrée prochaine, Michel Drucker te consacrera une émission et où il invitera tous les gens qui viendront parler de toi. Voilà, j'ai appris que Chénaud et Malbruno passaient chez Drucker. Alors, j'ai voulu regarder pour savoir si Guy Debord avait eu raison ou pas de se suicider. Et, bon, alors, dans l'après-midi, disons, c'était correct et c'était moins pire que ce que j'attendais. Michel Drucker, bien entendu, a évoqué Florence Aubenas et Hussein Hanoun. Et alors, une chose m'a frappé, c'est qu'il a dit, il y a maintenant 123 jours que Florence et Hussein sont détenus. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que j'ai les mauvais esprits, que l'émission, elle est sans doute pas en direct. Normalement, elle est enregistrée 3-4 jours avant, je crois, mercredi. Alors, mercredi, Michel Drucker, mercredi dernier, il savait déjà qu'il ne serait pas libéré, là. Voilà. Ou alors, il avait peut-être fait enregistré deux introductions à l'émission. Mais il fallait que ça ait l'air d'être en direct, quoi. Ouais.
Je vous remercie de cette émission sur Stalingrad. Ça remonte un peu les bretelles de tous ceux qui ont critiqué sans vergogne l'Union soviétique. C'est grâce à eux que le tournant de la guerre a été favorable aux forces progressistes. Ça a marqué la fin du nazisme. Le second front américain a été ouvert quand ils ont vu la déferlante de l'armée rouge sur l'Europe. Pour nous, hein, qui avions peur parce que nous étions pieds noirs, nous étions en Algérie. Mon père avait déjà été touché par les lois de Vichy et il suivait la progression de l'armée rouge. Malheureusement, il est mort en 42 et il n'aura pas eu ce plaisir de voir quand même la fin de la guerre. Quand les Américains ont débarqué en 42 en Algérie, ça a cessé puisqu'il y a eu le gouvernement provisoire après qui s'est établi. Mais je vais vous dire que nous, juifs d'Algérie, on suivait avec beaucoup d'attention, si vous voulez, la progression, parce qu'on savait que si Stalingrad tombait, c'était la fin de tout. Ils auraient débarqué en Afrique du Nord. Voilà. Il est bon de rappeler quand même quelque chose. C'était pas que négatif, l'Union soviétique. Il y a eu l'escadrille Normandie-Niemen, cette escadrille glorieuse et vraiment formidable. Vous savez, franchement, moi je souhaite de tout mon cœur que la Russie redevienne un grand pays puissant face aux Américains. Parce que là, c'est débridé, on n'a plus de rempart contre ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, je viens de finir d'écouter ton émission, Daniel Mermet. Merci pour nous avoir tous rafraîchi la mémoire. J'ai connu, j'ai vécu l'occupation allemande et je me rappelle cette victoire quand on l'a appris par la BBC. C'était vraiment magnifique et on a remercié le peuple russe de son courage et je crois que beaucoup de choses ont été oubliées à propos des soldats russes et de la victoire qu'ils ont apportée également avec les Américains, les Anglais. Alors, encore une fois, c'est très bien d'avoir fait cette émission. Beaucoup de gens vont réfléchir et vont revoir un petit peu leur histoire. C'est Joe Dugard.
Eh ben oui, ça a été un grand moment, cette commémoration du 60e anniversaire de la victoire, ici, à travers toute la Russie. Vous avez vu des images, je suppose, en France. Évidemment, ça a été une entreprise de récupération sur le dos des victimes et des survivants, mais ça c'est une vieille coutume, le détournement des cadavres est le passe-temps favori des proxénètes de la mémoire, on connaît ça, n'empêche que hier c'était un grand moment d'émotion et de souvenir pour les Russes. Alors, dire les Russes, c'est pas suffisant. Il faut redire pour les Soviétiques, pour tous ceux dont les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents ont disparu dans cette guerre. Il faut rappeler quand même encore une fois les chiffres. Entre 23 et 25 millions de ces Soviétiques ont disparu. De 5 millions de soldats, mais 13 millions, presque 14 millions de civils ont été tués lors de la Deuxième Guerre mondiale dans ce qui était alors l'URSS. Alors, si les chiffres ont un sens, il faut rappeler que les États-Unis comptent 314 000 victimes, la France 750 000 victimes, l'Allemagne 11 millions de victimes. Alors évidemment, cette compétition est stupide, mais enfin, c'est quand même énorme quand on pense qu'entre 12 et 15% de la population de l'Union soviétique d'alors a disparu. Et hier, c'était une journée d'émotion, de commémoration et de célébration des vétérans, même s'il y a une exploitation, il y a une réelle célébration des vétérans. Et c'est un peu ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire à travers un sujet qui nous passionne, c'est le théâtre au goulag. Il y a des chercheurs français qui ont travaillé là-dessus il y a quelques années, une chercheuse notamment, et on essaye à notre tour de nous intéresser à ces artistes, parfois de très grands artistes, qui sont venus jouer des pièces, chanter parfois des grands morceaux d'opéra dans certains goulags, dont celui de Vorkuta, où nous étions jusqu'avant-hier. On est redescendu de Vorkuta jusqu'à Syktyvkar en train. On a fait 20 heures de train et en voyant défiler le paysage de la Russie profonde. C'est une Russie géopolitiquement qui est en Europe, puisque c'est de ce côté-ci de l'Oural, du côté ouest de l'Oural. Aujourd'hui, je suis à Leningrad. De temps en temps, il y a le fameux tramway de Leningrad, de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, de Peter, comme disent les habitants ici, qui passe sous ma fenêtre, parce qu'on va rencontrer à nouveau des personnes, parfois des personnes très âgées, qui sont des témoins, voire des historiens du goulag et du théâtre du goulag. Plus précisément, aujourd'hui, c'est Give Anquetil qui est allé voir nos amis du monde diplomatique, qui vont nous dire ce qu'ils ont à nous dire dans ce numéro du Monde Diplomatique, mais aussi ils vont nous parler de choses qui n'y sont pas. Voilà, c'est comme ça tous les mois, vous connaissez la vieille tradition de Là-bas si j'y suis. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Béatrice d'Annecy. Je vous appelais juste pour vous lire les deux derniers mails de ma copine du Togo. Donc je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Alors le premier, ça va bien Béa, actuellement je suis au Bénin à cause de ces émeutes qui ont fait plus que 3 morts, ça je peux te le garantir. Les militaires étaient rentrés dans notre maison et ont tabassé tout ce qui bougeait. On s'était réfugiés sous les lits et les tables. Heureusement pour moi, je n'ai rien de grave, juste une lèvre cassée. Bon, je n'ai pas beaucoup d'argent, je te dis alors à bientôt. Et le dernier mail que j'ai reçu d'elle, je ne sais pas comment ce sera d'ici l'été, mais je peux te dire que pour le moment, ça ne va pas du tout. Comme je t'ai dit, je suis au Bénin pour le moment, et je ne sais quand je vais pouvoir rentrer parce qu'on me cherche à Lomé. En effet, je fais partie de ceux qui ont été témoins du bourrage des urnes au collège protestant de Lomé et qui sont indexés, et donc depuis le 25 avril, les miliciens du RPT me recherchent, et même hier, j'ai appelé mon cousin qui m'a dit qu'il continue par venir me chercher. Bref, je suis à Cotonou chez un ami qui a accepté de m'héberger pour le moment. Je te tiens au courant. Bye. Voilà, donc je n'ai plus de nouvelles d'elle pour l'instant. J'espère en avoir très bientôt, et donc je suis contente d'en avoir eu, non seulement de savoir qu'elle est toujours en vie, et d'autre part d'avoir des nouvelles tout simplement du Togo, car bien évidemment, ce qu'elle m'apprend, on n'en a absolument pas entendu parler ici. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Bon, on entend beaucoup de gens qui nous disent que la Constitution européenne, c'est pas bien, c'est pas beau, faut voter non. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça change si on vote non, alors? Parce que si on vote non, ça veut dire qu'on reste au traité de Nice. Enfin, je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quelles seraient les conséquences du non. Parce que c'est bien d'être opposé à la Constitution, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça change de voter non?
Juste pour te signaler que les Amis d'Attaque organisent mercredi 11 mai une nouvelle réunion avec un petit film de 30 minutes pour expliquer pourquoi il faut voter non à cette Constitution. Ça se passe à Bu, dans l'Eure-et-Loire, entre Dreux et Houdan. C'est 20h30 à la salle des fêtes de Bu, entrée gratuite. Venez nombreux, j'espère, pour faire bloc face à cette Constitution. Salut à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil et toute l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Вы позвонили в гостиницу «Октябрьская». Сейчас все телефонистки заняты. Подождите, пожалуйста.
Non, non, mais la conversation continue après une conférence de rédaction du Monde Diplomatique. Et j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui, puisque Daniel Mermet est en vadrouille quelque part en Sibérie avec les nénettes. Et pour ce numéro du mois de mai du Monde Diplomatique, avec un grand dossier sur la Constitution européenne, Bernard Cassen peut-être avec vous, un décodage en quelques points de ce TCE qui nous travaille.
Précisons que pour les auditeurs que TCE, c'est le traité constitutionnel européen, autre façon de désigner le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui sont un titre exact. Alors dans ce numéro du Monde Diplo, entre autres articles, nous proposons un décortiquage de 5 thèmes importants, comme les services publics, les droits, l'OTAN, etc. Mais nous sommes au-dessous, complètement au-dessous des nécessités, parce que maintenant, chacun d'entre nous a reçu un document qui est le texte de la Constitution, de ses annexes, protocoles et déclarations, accompagné d'un exposé des motifs.
Pour préciser, c'est ce texte qui nous explique pourquoi on vous envoie cette Constitution et quel est son sens, dans quelle histoire elle s'inscrit.
Cet exposé des motifs est un document mensonger de A à Z. C'est un pur et simple document de propagande gouvernementale dont il faut reprendre les argumentaires un par un. Il n'y a pas un. Alors, tout n'est pas faux, mais tout est incomplet. Alors, comme le document de la Constitution lui-même est très volumineux et reconnaissons-le, pas très facile à lire, beaucoup de gens vont se contenter de lire ça en croyant que c'est ça la Constitution. C'est un mensonge éhonté et qui nous appartient, et je crois qu'il appartient à tous les journalistes de dénoncer en permanence. Alors, on pourrait prendre, je dirais, presque chaque argumentation. Prenons-en une qui est d'ailleurs évoquée dans le dossier du Diplo. Par exemple, on nous dit, page 9, le traité fait de l'accès aux services publics un droit fondamental. Mais absolument pas. C'est un mensonge total. Les services publics ne sont pas du tout considérés comme un droit fondamental. Ils sont reconnus là où ils existent. Il n'y a aucune création de droits nouveaux pour ceux qui n'existent pas. Et puis par ailleurs...
Services publics qui sont appelés dans le traité, alors, SIEG.
Oui, Service d'intérêt économique général. Et Jacques Chirac nous a dit, c'est oui, mais c'est la traduction de service public. Non, c'est un mensonge de plus. La Commission européenne, dans son livre blanc de 1994, a dit elle-même, dans un livre blanc officiel, que les services publics et les SIEG, ça n'était pas du tout la même chose. Donc c'est elle, je crois qu'elle est meilleure exégète des textes que le plan de la République. Alors on nous dit que c'est un droit fondamental, c'est un mensonge, ils sont subordonnés aux règles de la concurrence, au refus des aides publiques, donc voilà, une affirmation sur un sujet très sensible. Alors on pourrait continuer un petit peu dans tous les domaines. la croissance et l'emploi, par exemple, on nous parle d'augmenter le pouvoir d'achat, etc. On voit bien que les capacités de coordination qui existent au niveau européen sont des coordinations de la pénurie, de l'austérité, de la diminution des dépenses publiques. Dépenses publiques, dit entre parenthèses, on ne nous dit pas ici, dans le point une Europe qui soit un pôle de paix et de stabilité, on ne nous dit pas que la Constitution enjoint les États pris individuellement d'augmenter progressivement leur capacité militaire. C'est le texte, c'est le 1.41, je crois, je dis ça de mémoire, les auditeurs vérifieront, qui est le seul domaine dans lequel le traité enjoint les États d'augmenter les dépenses publiques. On nous dit pas non, n'augmentez pas la santé, l'éducation, mais augmentez la course aux armements. Ça signifie davantage d'équipements militaires. Donc je pense que Thales, EADS et les entreprises d'armement américaines ne pourront que se féliciter. Bref, je crois qu'il y a un scandale majeur et nous attirons donc l'attention de tous les auditeurs pour qu'ils exercent un recul extrêmement critique par rapport à toutes ces affirmations et qu'ils trouvent d'autres sources de renseignements. Évidemment, tout le grand parti du oui nous prétendent que ce traité n'est pas idéologique. Qu'il n'y ait ni libéral ni social, qu'il soit pas social, ça c'est certain. Qu'il soit pas libéral, ça c'est une autre paire de manches. Évidemment, un traité qui consacre 332 articles sur 448 à exposer des politiques qui elles sont carrément et ouvertement et proclamées comme telles libérales, est évidemment un traité libéral, un traité dans lequel les aides publiques sont interdites, dans lequel la banque centrale est indépendante, donc fixe seule la politique monétaire sans aucun contrôle de qui que ce soit, notamment des États, est un traité libéral. Et d'ailleurs, les libéraux ne s'y trompent pas. Si le MEDEF est si enthousiaste, quoique discrètement, et son pendant européen, l'UNIS, si enthousiaste du traité, c'est certainement pas parce que le traité n'est pas libéral. En fait, ce que nous expliquons dans ce dossier, c'est que il y a deux types d'affirmations dans le traité. Il y a la partie 1 et la partie 2 qui ne mangent pas de pain, qui permettent d'être absolument pour tout ce que vous voulez, le développement durable, le commerce équitable, l'égalité homme-femme, la démocratie, enfin tout.
La démocratie participative, même.
Participative, les conditions de marché, tout ce qu'on veut. À la limite, il y a pas de problème. Ça ne coûte rien de dire tout ça, parce que ça n'aura dans le meilleur des cas qu'une valeur d'interprétation en cas de saisine de la Cour de justice. Mais c'est distribué, disons, à l'appel. Ça, c'est l'ombre. Mais la proie, elle, ce qui est sérieux, c'est la partie 3. Là, on ne plaisante plus, là. C'est sans des prescriptions extrêmement rigoureuses, avec en entrant dans le détail sur les majorités, les procédures, nanana, etc., etc. Alors, les gens qui nous disent que c'est pas libéral, eh ben, ils ne citent que la partie 1 et partie 2, qui est une litanie d'incantations, sans aucune effectivité. La plupart d'entre elles ne sont pas justiciables. En revanche, la partie 3, qui est occultée d'ailleurs.
Pourquoi elle était occultée? Parce que beaucoup, comme Olivier Duhamel, disent, mais ça fait partie déjà de l'acquis européen. C'est Nice, c'est Amsterdam, c'est Maastricht.
Eh bien, nous pouvons dire que les politiques de M. Raffarin, Fillon aussi, font partie de l'acquis français. Et est-ce que c'est pour autant qu'aux prochaines élections, tout le monde va voter pour cet acquis français? Puisque ça fait partie de l'acquis européen, il y a une bonne partie de cet acquis. On le récuse, on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord personnellement, et je pense que c'est un peu le cas dans toute la rédaction, pour la fermeture des 6000 bureaux de poste. Ou pour la privatisation de Gaz de France qui va intervenir, qui est retardée. Parce qu'il faut aussi parler des énormes bénéfices du non, déjà. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Eh bien, nous, comme on ne nous offre pas le choix, c'est à prendre ou laisser, nous laissons. Nous disons que ce traité, dans cette configuration, n'est pas un traité acceptable. C'est un traité effectivement libéral. Ce qui est un droit, d'ailleurs. Il y a beaucoup de libéraux qui voteront, d'ailleurs, se prononceront contre le traité parce qu'ils sont démocrates. Et qui considère qu'un traité ne doit pas figer un modèle socio-économique. Il doit laisser ouvert cette question et la laisser au choix des futurs électeurs.
Anne-Cécile Robert, vous avez participé à ce dossier sur la Constitution européenne avec un éclairage sur justement la gauche française, avec tout un historique, des débats au sein de la gauche française tout au long de la construction européenne, et vous concluez en parlant d'un triangle des Bermudes pour la gauche nationale. Parce que vous montrez des étapes avec, par exemple, Pierre Mendès-France qui a voté contre certaines étapes de cette construction européenne, Léon Blum aussi.
Contrairement à ce qu'on nous dit, la construction européenne a toujours fait débat à gauche. Ça n'a jamais été quelque chose d'évident. Et dès l'entre-deux-guerres, lorsqu'on a commencé à envisager une construction européenne, s'est posée la question du contenu. la question qui est évacuée aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit l'Europe, l'Europe, mais on omet de nous interroger ou de débattre du contenu du projet européen. Dès l'entre-deux-guerres, le débat se pose parce que les premiers projets portent sur une Europe économique. On parle d'union douanière, on parle d'entente entre entreprises, et déjà, vous avez des oppositions de gens qui sont pourtant très européens, comme Léon Blum. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil, même débat à gauche, la CED a coupé les socialistes en deux, littéralement en deux. La communauté européenne de défense. Et vous avez des personnalités éminentes, comme Pierre Mendès-France, qu'on ne peut pas soupçonner de faire de la tactique ou de la politique à courte vue, qui ont voté contre la ratification du traité de Rome. Et lorsque Guy Mollet, qui était président du Conseil donc socialiste, a opté pour la ratification du traité de Rome, il a été obligé de donner des garanties à son électorat, notamment en matière de politique agricole commune, de maintien du Fonds social européen, parce que ça n'était pas évident pour des socialistes de soutenir un projet qui était avant tout fondé sur la concurrence et le libre-échange. Donc il y a toujours eu débat, et c'est tout à fait logique. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on refuse ce débat. On fait comme s'il y avait une seule vision de l'Europe, alors que l'Europe est un projet politique qui, comme tout projet politique, est discutable, qui a son contenu, et pour lequel on peut imaginer un tout autre devenir et un tout autre projet.
Alors, quelles sont les raisons, vous pointez justement, de cet alignement d'une grande partie de la gauche, celle que vous appelez la gauche institutionnelle, sur ce projet européen, précisément ?
Il y a de multiples raisons. Le ralliement, d'abord, de la gauche officielle à l'Europe, il est lié à son ralliement au libéralisme. Il y a un parallélisme tout à fait évident hein, entre l'adhésion des grands partis de gauche européens au libéralisme économique et leur soutien à une Europe qui est fondée là-dessus. Après, il y a des raisons, j'allais dire, historiques, voire psychologiques, qui sont que depuis une vingtaine d'années, la gauche a du mal à fonder un vrai projet politique mobilisateur, alternatif. Il y a eu la chute de l'Union soviétique, il y a eu l'échec de certaines expériences tiers-mondistes. Et pour une partie des gens de gauche, l'Europe, c'est le dernier idéal. Et donc, même s'il est imparfait, on va le soutenir. C'est un peu comme, si vous voulez, dans les années 50, ces vieilles filles qui passaient 50 ans épousaient le premier imbécile venu parce qu'il ne restait plus que ça. Et même si le mec leur fout des coups, il est idiot et qu'il rentre bourré le soir, eh bien, on reste avec lui parce que c'est le dernier mec possible. Eh bien, pour une partie de la gauche, l'Europe, c'est le fiancé c'est de la vieille fille. Il reste plus que ça, donc tant pis, elle est de droite, elle fait pas ce qu'on veut, elle soutient les États-Unis, mais on reste avec elle.
Martine Bullard.
Et puis elle permet ce qu'elle montre dans son papier, c'est-à-dire qu'elle permet à la gauche de passer sous silence la gauche officielle, la gauche dite de gouvernement, enfin au moins une partie de cette gauche de gouvernement, de passer sous silence les renoncements en France. On renonce à changer en France comme on renonce à changer en Europe, et on voit bien qu'au sein de la gauche, c'est Lionel Jospin qui dit « l'État peut pas tout ».
Dominique Vidal.
Ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que malgré le ralliement de cette gauche institutionnelle dont parle très bien Cécile Robert dans son papier, malgré qu'une bonne partie de la droite appuie aussi le traité, bien que l'essentiel des médias fasse campagne, même certains médias radiophoniques, malgré tout ça, malgré ce déluge de propagande, le fait que le Conseil constitutionnel accepte qu'on envoie aux électeurs des motivations de vote absolument scandaleuses, malgré tout ça, au-delà des aléas des sondages, on a une majorité de nos concitoyens qui, encore aujourd'hui, disent non. Non, ça ne passera pas. Et je trouve que ça mérite réflexion. Il faut voir comment les choses vont évoluer. On a encore trois semaines de campagne. Mais quand même, je dis, de toute façon, quelle que soit l'issue, on voit bien qu'une grande partie de notre société, de nos concitoyens, notamment des jeunes, ne se laisse plus faire par ce genre de bourrage de crâne généralisé. Et ça, c'est un acquis, je trouve, extrêmement important. Très important.
avant de continuer dans le sommaire de ce monde diplomatique de mai 2005, un mot justement en écho à ce papier sur la gauche française et la question européenne, un article de Philippe Marlière sur la gauche, ou en tout cas les néo-travaillistes britanniques, qui eux sont pas du tout pris dans ce cul-de-sac, puisque eux montrent la voie à une partie des sociaux-démocrates européens. Anne-Cécile Robert.
Les néo-travaillistes anglais, sous la houlette de Tony Blair, ont réussi une synthèse baroque entre un ultralibéralisme et un discours qui relève du prêche sur la question sociale. Et c'est un peu le modèle que défend cette constitution, entre guillemets, européenne et la gauche officielle, c'est-à-dire nous faire passer un système qui est économiquement dur, extrêmement réactionnaire, avec un discours anesthésiant, où on fait beaucoup de pétitions de principe, de discours généraux. Si vous prenez la partie 2 du traité constitutionnel, vous verrez que l'Union européenne s'occupe des handicapés, des enfants, des personnes âgées, et Dieu dans tout ça, ben oui, ils ont failli le mettre d'ailleurs. Donc on remplace le discours sur la transformation sociale par des prêches contre la pauvreté. Et Tony Blair est très fort pour ça. C'est-à-dire ses campagnes électorales, c'est presque des shows de télévangélistes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses concrètes, à part des chiffres bidonnés sur le chômage, et en revanche on a des discours larmoyants sur le fait qu'on peut pas laisser les gens sur le côté, etc. Et dans le même temps, politique très dure, puisque sur les chiffres du chômage, et c'est malheureusement pas assez souligné, il faut savoir qu'au Royaume-Uni il y a des travailleurs pauvres, il y a des gens qui travaillent à plein temps pour un salaire distribué en dessous du seuil de pauvreté, que la comptabilisation du chômage fait que si vous travaillez quelques heures par semaine, vous êtes comptabilisé comme un actif, et reprendre, comme on le fait couramment, qu'il n'y a pas de chômage au Royaume-Uni, c'est alors qu'il y a une précarité très forte pour les jeunes, pour les femmes, pour toutes les catégories les plus démunies. C'est un système très dur. Il faut se rappeler qu'il s'est bâti aussi sur l'écrasement des syndicats sous Margaret Thatcher, et qu'effectivement, il n'y a plus de rapport de force pour soutenir une véritable politique de transformation sociale au sein du Parti travailliste.
Oui, je crois qu'on est injuste quand même avec nos dirigeants, qu'ils soient britanniques ou français ou allemands. Il y a une grande inventivité chez eux, notamment pour la manière de faire disparaître la moitié des chômeurs. Et au fond, c'est ça le système qui a été inventé, il faut leur rendre hommage quand même, par les dirigeants sociodémocrates néerlandais, qui ont été les premiers à créer une catégorie d'handicapés qui n'ont aucun handicap sauf celui d'être au chômage, mais comme on les déclare handicapés, ils ne sont plus inscrits dans les colonnes du chômage.
Handicapés sociaux.
Voilà, et c'est exactement le système qui a été utilisé au Royaume-Uni. Chez nous, en France, on en a utilisé d'autres, moins efficacement d'ailleurs, les chiffres restent quand même assez élevés, c'est assez étonnant. Mais ça vaudrait une enquête de là-bas, si j'y suis, à l'échelle européenne, pour voir les trucs utilisés ici ou là. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, par exemple, si on ajoute les handicapés, ça multiplie par deux. C'est-à-dire qu'on est dans un type de chômage de l'ordre de 10 à 11%, comme chez nous. Et je pense, sous réserve d'inventaire, que c'est à peu près la même chose au Royaume-Uni. Donc, ça vaut de faire l'enquête. Parce que vraiment, là, il y a une manière... C'est formidable d'arriver à faire disparaître tous ces chômeurs, parce que quand même, ça fait tâche, ça fait une ombre au tableau, quoi.
Monsieur Ramonet ?
Oui, une remarque. Malgré tout ce que nous disons, il faut tout de même constater que Blair a gagné l'élection électorale. C'est-à-dire que l'offre politique aujourd'hui est tellement conservatrice qu'il est évident que les deux autres formations politiques étaient encore beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus réactionnaires, il faut bien le dire. Donc il y a tout de même une sorte de réflexion à conduire sur l'état finalement de société qui se résigne à choisir le moins mauvais finalement dans l'offre politique qui est proposée.
Au sommaire de ce numéro du mois de mai du Monde Diplomatique, un grand dossier, les faces cachées d'une guerre mondiale. À l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre, vous soulevez différentes histoires de la grande histoire qui sont occultées parce que une grande histoire qui puisse être expliquée à tout le monde, c'est une histoire mythifiée, c'est une histoire simplifiée, c'est une histoire rabotée aux encoignures pour pouvoir avoir un mythe et non pas des réalités. Alors Dominique Vidal, 5 histoires de la grande histoire qui sont relevées.
Je crois que la France est atteinte d'une maladie qui s'appelle la commémorationnite. Aigu. Je crois que c'est une vraie question. Non pas qu'il ne faille pas commémorer les grands événements, évidemment. Mais d'une part, ces commémorations prennent un aspect spectaculaire, centré sur les symboles, sur l'émotion, et souvent au détriment du contenu même, de la compréhension des événements dont ils sont censés commémorer l'issue. Et deuxièmement, avec une espèce de réécriture à l'occasion qui permet de faire disparaître un certain nombre d'éléments importants des événements dont il est question, soit parce qu'ils gênent, je pense au rôle de l'Union soviétique, par exemple, de toute évidence, bizarrement, alors qu'il n'y a plus d'Union soviétique et depuis plus de 15 ans, le fait d'évoquer encore le rôle de l'Union soviétique pose problème à un certain nombre d'intellectuels, de dirigeants sans doute, ou bien simplement parce qu'ils éclairent des logiques en leur donnant toutes leurs dimensions. Je prends l'exemple de ce que Christopher Bailey et Tim Harper racontent des guerres oubliées de l'Asie. Ça a l'air d'une question bien lointaine. Mais au fond, ils nous montrent la complexité des situations impliquant des rapports de force locaux, régionaux et mondiaux. Et par exemple, du fait que l'armée de l'Empire japonais, bien qu'ayant multiplié les crimes les plus épouvantables à travers l'Asie, a quand même trouvé pendant un temps des alliés. Pourquoi ? Parce que parmi les représentants de ces peuples opprimés à l'époque par l'Empire britannique, l'idée de s'allier aux Japonais contre l'occupant britannique pouvait apparaître comme
l'ennemi de mon ennemi et mon ami.
Voilà, voilà. Donc, on a ce type de fonctionnement. Alors, ça surprendra énormément le lecteur, parce que ce sont là des épisodes très peu connus, notamment en France, plus connus en Grande-Bretagne, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je pourrais dire autant de l'affaire de la Rosenstrasse ou de ce qu'on a appelé le programme d'euthanasie des nazis. C'est extrêmement important, parce que quand on y réfléchit, le fait d'avoir tenté et réussi pour un tiers d'entre eux d'exterminer, y compris par les gaz, par le gazage, un tiers des malades mentaux allemands...
Au nom de la pureté de la race.
Au nom de la pureté de la race, au nom du ce qu'on appelle le darwinisme social, ça montre bien que l'idée génocidaire était une idée qui hantait les dirigeants nazis d'une manière très focalisée sur les juifs, puisque ce sont les seules victimes qui ont vraiment été pourchassés jusqu'au dernier. L'idée des nazis était d'exterminer jusqu'au dernier juif d'Europe. C'est pas vrai des autres victimes du génocide nazi, que ce soit les Tziganes, les Polonais, les Slaves, etc. Mais quand même, il y a une pensée génocidaire globale qui se fonde, au fond, sur une espèce de logique évidemment folle, de logique horrible, mais de logique quand même, qui s'exprime à travers ce premier pas dans le génocide qu'a été la liquidation des malades mentaux allemands. L'affaire de la Rosenstrasse est intéressante d'un autre point de vue parce que elle montre que contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, ce régime était très sensible aux opinions publiques.
Rappelez-nous ce que c'était.
Alors, ça se passe à la fin février 43. Goebbels, qui est non seulement ministre de la propagande, mais aussi le Gauleiter, le préfet du parti nazi pour Berlin, décide de déporter les derniers juifs de Berlin. Les derniers juifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la Wehrmacht, et les juifs mariés à des femmes allemandes, donc qui, du point de vue des lois de Nuremberg, ne pouvaient pas être pourchassées. Et donc, on rafle, dans ces quelques jours de la fin février, plusieurs milliers de juifs, dont 5 à 6 000 mariés à des femmes allemandes. Et le jour même, une centaine, puis 200, puis 300 femmes viennent se rassembler devant le lieu où leurs maris sont emprisonnés. C'est pas une manifestation très politique, on ne crie pas de slogan anti-nazi, on crie « rendez-nous nos maris ». Et puis le lendemain, elles sont 600, le surlendemain 800, ensuite 1000. On envoie la SS, on envoie toutes les forces de répression. Elles ne bougent pas, elles partent quand on les menace et puis elles reviennent. Et au bout de 10 jours, le régime cède. Et on libère les juifs époux de ces femmes. On va même en libérer jusqu'à Auschwitz, où ils avaient été déportés. On les ramène.
Alors on va les chercher.
On les libère. On va les rechercher. Et ces hommes vivront sans être pourchassés jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire que ces quelques centaines de femmes qui ont eu le courage, la dignité de venir manifester d'une manière tout à fait pacifiquement, bien sûr, au cœur de Berlin, à côté du siège de la Gestapo.
Rappelons-le, en 43.
En 43, après Stalingrad, c'est important, évidemment, parce que là, le moral s'effondre. Eh bien, elles ont fait reculer le régime. Et on trouve dans les papiers de Goebbels l'explication, il y a eu une réunion avec Hitler en personne, où on a dit « vaut mieux les libérer que d'avoir un mouvement qui risque de faire tache d'huile et de venir gêner toute l'entreprise génocidaire. Imaginez qu'il y ait des manifestantes ou des manifestants de ce type un peu partout en Allemagne alors qu'on commence, à l'époque, les grandes déportations massives des Juifs d'Allemagne. » Donc, on a un recul du régime. Très important de la compréhension de ce qui s'est passé. Mais le plus important, je trouve, dans ce dossier, c'est l'article de Goetz Ali. Goetz Ali est un historien, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, spécialiste du génocide. Il a déjà produit beaucoup de livres tout à fait remarquables. On lui doit notamment cette vision globale de l'entreprise génocidaire nazie à l'Est, comme une espèce de guerre coloniale. C'est-à-dire à la fois une guerre coloniale, une guerre anti-juive, une guerre anti-tsigane, une guerre anti-slave, une croisade anti-bolchévique, tout ça mélangé dans un même combat, un même objectif terrible, évidemment. Et il apporte une pierre de plus, mais une pierre très importante, parce qu'on croyait que, au fond, la population allemande avait été vaincue à la fois par la répression du mouvement ouvrier, du Parti communiste, du Parti social-démocrate, de l'ensemble des forces de gauche, des syndicats, et par la propagande. Et là, Goetz-Ali nous dit non. Il y a un autre élément très important, c'est qu'Hitler a acheté les Allemands. C'est-à-dire que le pillage des biens juifs, en Allemagne et ailleurs, et le pillage des territoires occupés, a été pour une part utilisé pour garantir à la population allemande le niveau de vie le plus élevé possible, jusqu'au plus tard possible dans la guerre.
Que eux aussi gagnent.
Voilà, et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on comprend, si on l'a oublié, que Hitler et les dirigeants nazis ont vécu la Première Guerre mondiale, qu'ils l'ont subi souvent comme soldats, et qu'ils ont la mémoire du fait qu'à partir du moment où le niveau de vie de la population allemande s'était effondré, c'est-à-dire à partir de 1916-1917, l'ensemble du front intérieur s'était effondré. Et donc ils ont l'obsession d'acheter jusqu'au bout, tant qu'ils l'ont pu, leurs concitoyens pour avoir un consensus au moins passif. Le plus important possible. Ça éclaire quand même cet aspect-là, beaucoup de dimensions. La dernière chose, vous l'avez cité, c'est sur les massacres de Sétif et de Guelma le 8 mai 1945. C'est un peu plus connu parce que, effectivement, les derniers jours ont vu beaucoup d'émissions de télévision, de radio sur ces événements que peu de Français connaissaient, c'est vrai. Donc on est aujourd'hui dans une reconnaissance officielle de la faute gravissime commise par la France. En deux mots, pendant que les Français célébraient dans la joie la victoire sur le nazisme, le 8 mai 45, l'armée et la police française massacraient par milliers des manifestants à Sétif et à Guelma, dont le seul crime était d'avoir brandi un drapeau algérien, qui à l'époque était bien sûr un drapeau interdit. Là-dessus, il y a eu un certain nombre de violences et on est entré dans une répression extrêmement brutale. Pourquoi c'est important? Pas seulement pour des raisons morales, je ne crois pas que ce soit ça qui, en tout cas, nous motive, bien sûr que c'est important, la morale. C'est aussi que cette répression a eu une influence majeure sur l'histoire même de l'Algérie et donc de la France dans les décennies qui ont suivi. Parce que les massacres de Sétif et Guelma ont rendu impossible toute autre solution pour les nationalistes algériens que le fait de prendre les armes pour obtenir la libération de leur pays. Alors qu'on aurait pu, sans ces massacres, imaginer, sur la base des projets qui avaient déjà été ceux du gouvernement de Léon Blum dans les années 30, et qui n'avaient pas abouti, même pas abouti devant l'Assemblée nationale d'ailleurs, on aurait pu imaginer un autre type d'avancée vers l'indépendance qui aurait évité, à la fois à la France, mais surtout à l'Algérie, les drames de 8 années de guerre épouvantable.
Ici à Radio France, la voix de l'Algérie française.
Oscar Herrera, Eduardo Herrera, Freddy Herrera, Fernando Pacheco y el popular Mañe que el barrio Laya, donde muchos nacen y pocos se crían y no se necesita tanta bulla para ir al combate. ¡Atención, Colombia!
Continuons ce numéro du Monde Diplomatique de mai avec vous, Maurice Lemoine, pour un article qui n'est pas de vous, mais qui concerne votre champ de spécialité, l'Amérique latine et en particulier la Colombie, et qui revient sur un épisode à la charnière au milieu des années 80 et qui explique en partie le chaos dans lequel ce pays est encore.
Oui, on revient sur la Colombie avec un auteur, avec deux auteurs d'ailleurs, Ivan Cepeda et Claudia Girón. Ivan Cepeda étant le fils d'un sénateur qui a été assassiné, sénateur de l'Union patriotique, et nous revenons précisément sur l'histoire de ce parti politique qui est l'Union patriotique. On a souvent du mal à analyser le conflit colombien avec cette espèce de fouillis, de folie furieuse.
Paramilitaires, FARC, prise d'otages, drogue, narco-dictature.
On ne sait plus qui sont les bons, qui sont les méchants, qui sont les justes, qui sont les chiens enragés. Alors effectivement, on met en cause paramilitaires, guérillas, narcotrafiquants. Il y a un acteur qu'on met rarement en cause, c'est l'État. Assez paradoxalement, l'État passe assez inaperçu. Il a souvent par erreur de cause. Or, en revenant sur cette tragédie de l'Union patriotique, on montre en évidence le rôle de l'État. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Union patriotique? C'est un accord qui est signé le 28 mars 84 entre les forces armées révolutionnaires de Colombie, donc la principale guérilla, et le gouvernement de Belisario Betancourt, qui n'a rien à voir avec la sénatrice Ingrid Betancourt.
Qui est toujours prise en otage.
Qui est toujours prise en otage des FARC, dans lequel le gouvernement et la guérilla décident pour le gouvernement de mettre en œuvre des réformes politiques, sociales et économiques, et puis pour la guérilla de cesser à l'époque déjà des pratiques condamnables du style enlèvement, etc. Et surtout, cet accord donne un an à la guérilla pour créer une formation politique de manière à pouvoir, au terme d'accord de paix, revenir à la vie démocratique. Pour des raisons diverses, violations des accords des deux côtés, la guérilla va se retirer de cette affaire, mais l'Union patriotique est née de cet accord. C'est un parti, une formation politique d'opposition, donc de gauche, avec des gens du Parti communiste, avec des gens, avec des socialistes, vous pouvez imaginer le pluralisme de la gauche colombienne, qui est créé donc en mai 85, donc c'est le 20e anniversaire de la création de ce parti, et puis très très vite, dès la moitié de l'année 1985, on va commencer à assister à des crimes individuels, et puis des crimes de masse, et puis des bombes, et puis des attentats, à tel point que, en fait, ce parti en formation va avoir 3000 de ses militants, sympathisants, dirigeants, assassinés. C'est-à-dire, en fait, on assiste à une véritable campagne d'extermination, puisque y compris deux de ces candidats à la présidence de la République, Pardo Leal et Bernardo Jaramillo, seront également exécutés. Et évidemment, dans cette espèce de grand foutoir colombien, on a tendance à dire c'est des luttes internes, c'est des narcotrafiquants, etc. Or, on va évidemment mettre en évidence le rôle de l'État, et en particulier, on a des preuves que 5 plans régionaux et nationaux ont été mis en place, au plus haut niveau de l'État, parle de politicide, c'est-à-dire de l'extermination d'un groupe politique en raison de ses convictions. Jusqu'à présent, évidemment, tout ça s'est soldé par une impunité absolument totale, y compris avec des acteurs qu'on connaît très bien, y compris avec des acteurs avec qui l'actuel gouvernement colombien d'Alvaro Uribe Vélez est en train de négocier, puisqu'il négocie le retour à la paix d'un certain nombre de groupes paramilitaires. Évidemment, tout ça, ça a eu des conséquences. Et je terminerai par là. Ça a été un obstacle à la démocratisation du système politique colombien, et là on revient au cœur du conflit à l'heure où nous parlons. Ça a été évidemment pour l'ensemble de l'opposition colombienne, y compris la plus modérée, la peur de s'exprimer, l'impossibilité de s'exprimer, c'est-à-dire en fait la fermeture totale de l'espace politique. Et puis ça a été, et ça explique en grande partie aussi la cruauté du conflit aujourd'hui, ça a renforcé évidemment dans leur conviction ceux qui n'ont cru ou n'ont plus utilisé que la voie de la violence. Et d'une certaine manière, le conflit tel qu'il se poursuit aujourd'hui, c'est un petit peu le fils de l'extermination du non-patriotique.
Un autre dossier dans les pages centrales du Monde diplomatique de ce mois-ci, c'est un article qui, justement, là, est loin des questions diplomatiques, mais bien plutôt des questions sociales sur les violences conjugales en France. Martine Bula.
Oui, ce qui est intéressant dans cette enquête de Mona Chollet, c'est qu'elle démystifie quelques-uns des tabous sur la question des violences à l'encontre des femmes. Premier tabou, démystifier, les femmes ont plus à craindre de leur compagnon, de leur mari ou de leur ex-compagnon et de leur ex-mari que de l'environnement général. Plus de la moitié de la violence se passe contre les femmes, se passe dans le huis clos familial. Premier élément. Deuxième élément, il est énorme. 6 femmes meurent chaque mois en raison de la violence conjugale. Encore, ces chiffres, ce ne sont-ils que les chiffres officiels. On sait qu'il y a une grande difficulté à travailler sur ces questions-là. En tout cas, le gouvernement français ne travaille pas sur ces questions-là, ou peu, alors que, par exemple, le gouvernement espagnol a déjà travaillé depuis très longtemps. Troisième élément, la violence conjugale touche tous les milieux. les femmes des beaux quartiers comme les femmes des banlieues, même si les banlieues sont plus souvent mises en avant et stigmatisées. On a vu avec l'affaire de Ghofran Hadaoui à Marseille, cette jeune femme qui a été tuée par un amoureux éconduit. On a vu les débordements auxquels ça a donné lieu, puisqu'on a parlé de lapidation, puisque cette femme était une jeune immigrée, enfin issue de l'immigration. Et donc naturellement, si on peut dire, on expliquait que les musulmans étaient batteurs de femmes, alors qu'on s'aperçoit évidemment, ce qui me paraît être une évidence, qu'il n'y a pas plus de violence chez les milieux immigrés que dans les beaux quartiers. Tout le monde était là, à égalité. Pour une raison bien simple, c'est que on ne tue pas par amour, on tue par désir de possession. Et cette possession est au fond le symbole de la division sexuée de l'imaginaire dans l'imaginaire social. On s'aperçoit que l'homme est viril, doit utiliser la force, et la femme est fragile, doit être protégée. C'est une image qui reste extrêmement forte dans l'imaginaire. On le voit dans même le traitement médiatique des affaires de violence, puisque dans un cas, on parle de la et de culture musulmane qui pousserait à tuer, et dans l'autre cas on parle de crime passionnel, comme si la passion pouvait justifier la possession de l'autre. En vérité, la violence conjugale est une maladie sociale contre laquelle il faut se battre par différents éléments. Et là aussi, c'est un des éléments importants de l'enquête de Mona Chollet, c'est qu'elle montre qu'il y a divers moyens d'aborder. Par la justice, il faut se rappeler qu'en France, il a fallu attendre mars 2005, pour que le viol à l'encontre de sa conjointe soit reconnu comme viol. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une banale scène de ménage. Désormais, c'est un facteur aggravant pour ce type de crime. Enfin, quatrièmement, il y a l'élément de qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a tout un processus de violence verbale avant qu'on en arrive à la violence physique, qui fait qu'une partie des femmes vont porter plainte et renonce parce que c'est très difficile de se retrouver toute seule, trouver un emploi, trouver un logement, etc. Renonce aussi parce que les rapports dont je parlais tout à l'heure, les rapports sociaux, les rapports d'imaginaire, font qu'au fond, bon, il m'a donné une claque, mais c'est parce qu'il m'aime, quoi. Donc, est-ce qu'il faut dans ces cas-là refuser le retrait de la plainte, comme le proposent certains juges? Donc là, il y a des débats, et c'est intéressant de montrer comment ça se résout dans différents pays européens, au Canada, etc. C'est ce qu'a montré Mona Chollet. Et enfin, troisième élément, comment on traite les violents, les hommes violents, qui sont, comme je le dis, cette violence est une maladie sociale. Est-ce qu'on aide à les... Est-ce qu'on emploie, comme au Canada, la camisole chimique, hein, on a vu ça. Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de travailler à une réhabilitation progressive des gens violents? Enfin, quatrième élément, c'est naturellement l'imaginaire dans notre société. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à présenter les femmes comme des objets dans les publicités, dans les films porno, etc., et les hommes comme devant affirmer leur autorité, on aura des problèmes de ce type-là, et ça se retourne évidemment contre les femmes.
Un mot pour dire qu'on ne parlera pas aujourd'hui de l'article de ce Monde diplomatique de mai 2005, qui pourtant est en première page de Serge Halimi, qui s'intitule « Le média en tenue de campagne européenne », puisqu'on y reviendra la semaine prochaine avec les extraits qu'il cite sur la perception et l'écho médiatique du débat sur la Constitution européenne. Et vous vouliez aussi faire un mot aussi sur un de vos prédécesseurs au Monde diplomatique, oui, Ignacio Ramonet.
Oui, sur mon prédécesseur, c'est-à-dire Claude Julien. Claude Julien... est décédé jeudi de la semaine dernière. Claude Julien, c'était avant tout un très grand journaliste, un des journalistes les plus brillants de sa génération. Il avait été chef du service étranger du Monde et grand reporter également. Par exemple, c'est un des seuls, peut-être le seul journaliste français qui avait suivi ce qui se passait à Cuba avant la Révolution, c'est-à-dire qu'il s'intéressait au régime dictatorial de Batista, etc. Il a d'ailleurs écrit un livre, un des tout premiers livres écrits dans le monde sur la Révolution cubaine. Il est devenu directeur du Monde diplomatique, rédacteur en chef à l'époque, en 1973. Et moi, je faisais partie de l'équipe qu'il a constituée dès le début. Et c'est lui qui a donné indiscutablement le caractère que les lecteurs connaissent aujourd'hui au Monde diplomatique. Nous n'avons fait que, finalement, continuer un petit peu cette tradition, c'est-à-dire un journal d'abord qui se distinguait des autres, et notamment également du quotidien, et puis aussi l'accent que Claude Julien a voulu mettre tout de suite sur divers aspects, en particulier ce qu'on a appelé le tiers-monde, ce qu'à l'époque était le tiers-monde, c'est-à-dire ces nations qui commençaient à avoir un véritable rôle indépendant, original, singulier, personnel, etc. Alors que depuis les indépendances, disons, des années 60, c'est des pays qui n'avaient pas encore exprimé leur véritable personnalité. Et puis aussi, c'est lui qui, un des premiers, même en France, a commencé à réfléchir sur ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation, c'est-à-dire le néolibéralisme, etc. Je crois que le monde diplomatique lui doit énormément. Donc voilà, je voulais à la fois lui rendre hommage, et les lecteurs auront l'occasion de découvrir sa plume dans le prochain numéro du Monde Diplomatique, numéro 2 juin.
C'était la baisse, j'y suis avec aujourd'hui le diplo avec Yves Anctil. Merci à l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Bernard Cassel, Maurice Lemoine, Dominique Vidal, Serge Halimi, Martine Bullard et Anne-Cécile Robert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission La Basse, si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, il y avait Lydvine Caron et Stéphane Devernay, et puis l'équipe de La Basse, si j'y suis, Antoine Chao, Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef répondeur Christophe Imbert. Vous pouvez lui laisser vos messages au 01 56 40 37 37.